Bonsoir à tous, nous sommes mardi, il est 21h et c'est l'heure du Dojo Bar.
Bar!
Bonsoir à toutes et à tous. Je suis désolé, je te coupe Antix. Alors voilà, il vient d'avoir une petite proposition de refaire le générique d'intro, mais a cappella.
On l'avait pas déjà fait avec Smoke McGrove ?
On l'avait fini avec Smoke McGrove, mais on l'avait pas fait à proprement parler. Voilà, bonsoir à tous. Bonsoir Méduse.
Salut Momo.
Et bonsoir Antix, l'homme reverso, double champion du monde de Traductotron, champion du monde en titre, vice-champion du monde en titre.
Pour moi, trois générations.
Et nouveauté de cette saison 4, je serai toujours présent.
Oh.
Et champion en titre.
Alors là, moi je dis bravo, je dis chapeau, donc tu seras présent du début à la fin, sans interruption, sans jamais dire qu'on dit de la merde.
Je serai en live 24h sur 24, 7 jours sur 7, même quand il n'y aura pas de dojo bar.
Ouf, le dojo en intraveineuse.
Ceci est une promesse, je m'y tiendrai. Moi, président.
Ça commence D'accord, mal, généralement, ceux qui commencent voilà. La phrase comme ça.
Le changement, c'est demain matin. Donc, qu'allons-nous voir pour cette émission, je dirais, mirifique. J'ai envie de mettre cette émission sous le signe du mirifique, de l'abondance. Donc on va parler dans un premier temps de Hyrule Warriors. Alors pour simplifier, on va dire Hyrule Warriors, ou les guerriers d'Hyrule, c'est comme vous voulez.
Tabernacle,
parce que sinon on va pas y arriver. Donc ça, ce sera la toute première partie de l'émission. Dans la deuxième partie de l'émission, nous parlerons d'un petit jeu 3DS pas très connu, pas très attendu non plus. Je sais pas si vous connaissez Smash Bros 3DS. Je sais pas si ça vous dit quelque chose. Moi, je connais pas non plus.
Quand tu parles.
Je sais pas. Mais on va commencer par notre traditionnel tour de table de l'actu. Et je vais donc laisser la parole à Antix, puisqu'il y avait un petit truc à nous dire pour commencer.
On va parler Smash Bros tout de suite. Enfin, avec les dates de la version Wii U qui ont été annoncées il y a quelques heures à peu près. Donc, nos amis américains seront servis avant nous pour en avoir plein pour le Black Friday. Ils seront servis le 21 novembre. Et nous, pauvres européens, devons apprendre 2 semaines de plus, le 5 décembre, pour avoir le jeu. Sachant qu'on pourra acheter plein de figurines amiibo la semaine d'avant et ne pas s'en servir.
Ouais, exactement. Parce que les figurines amiibo sortiront le 28 novembre en Europe.
Et une deuxième série le 19 décembre avec d'autres personnages, donc Captain Falcon, Pete et Little Mac de mémoire.
Par contre, on pourra peut-être s'en servir si Nintendo fait une mise à jour de Smash Bros 3DS. Ah mais non, on n'a pas le NFC.
Là, on
n'a
pas le truc
3DS.
De NFC.
Oui, non, voilà.
3DS,
et non.
Ça ne marchera pas tout de suite, ça. Par contre, alors, moi, je connais une manière de s'en servir un peu universelle. Il n'y a pas besoin de 3DS. Voilà.
Non, mais je verrais plutôt laquelle, alors, pour ça.
Non, voilà. Après, ça demande une certaine... faut une certaine abnégation, j'ai envie de dire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment en vouloir. Surtout pour la figurine Peach, parce que comme elle a le bras sur le côté, ça va pas être évident. Hein. Parce que Kirby, il y a moyen que ça rentre tout seul, mais voilà. Bref, Méduse, je t'en prie pour le deuxième sujet d'actualité, puisque tu
oui.
Un petit truc rigolo en plus, parce que moi j'ai juste lu le titre et je me suis dit putain, ça va être énorme. J'ai fait exprès de pas lire le truc, comme ça je te laisse faire. Méduse.
J'ai perdu la Belgique.
On a perdu, voilà, la Belgique n'est plus là.
Ouais, donc, n'est plus sujet là. D'actualité rigolo, disais-je donc, parce que je viens de me faire jeter du serveur. Le petit sujet d'actu, c'est un article qui est paru il y a environ... On me reçoit bien, ouais.
Tout le monde t'entend très bien, il n'y a pas de souci.
Qui est paru il y a une petite semaine sur Gamasutra, et qui est signé par un développeur polonais indépendant, qui s'appelle Leszek Lizowski, à vos souhaits, et qui fait partie de la boîte Westlands Interactive, qui vient de sortir récemment sur PC Worlds of Magic, qui est un jeu de stratégie au tour par tour. Mais on s'en fout. L'article de ce monsieur-là, qui vient de sortir son jeu, il explique en fait comment les développeurs indépendants se font chourer des clés, puisque eux se sont fait lamentablement chourer plein de clés Steam pour leur jeu. Donc je vais vous raconter un petit peu leur petite péripétie. Très facile, le jeu sorti sur Steam le 11 septembre en version Early Access, pour ceux qui connaissent pas, sur PC, le early access, c'est une espèce d'encule qui fait que le jeu est pas encore totalement terminé, mais tu payes déjà un petit peu moins cher pour pouvoir y avoir accès. Et quand le jeu est sorti en version définitive, il est débloqué sur ton compte avec la somme que t'as payée avant. Donc voilà. Donc le jeu est sorti le 11 septembre. Ils ont fait l'annonce le 4 septembre avec communiqué de presse, etc. Et dans le communiqué de presse, leur petite équipe d'une bonne quinzaine de personnes incitait les journalistes, même les youtubeurs, les éditeurs de sites internet, simplement leur prendre contact avec eux pour demander des clés. Comme ça, s'ils sont intéressés pour le jeu, classiquement c'est ce qui se fait, ils reçoivent une clé à l'avance, ils essaient un peu, puis ils en parlent. C'est le même procédé que font les gros éditeurs, sauf qu'ils s'y prennent beaucoup plus tôt à l'avance, les gros éditeurs, qui fait qu'on a les tests de jeu dès la sortie, qu'on ne doit pas attendre qu'ils les achètent en magasin, etc. Bref, tout le monde connaît. Donc une semaine avant la sortie du jeu, ils balancent le mail, ils reçoivent des demandes de journalistes, d'éditeurs, de youtubeurs, etc. Mais évidemment, pour une petite boîte comme ça, gérer un flux de mails de devoir envoyer sur une dizaine de jours, ils disent avoir envoyé environ un millier de mails. Vous vous rendez compte un peu.
Ah oui, quand même, ça fait du.
Voilà, ce que c'est à gérer. Et donc voilà, ils étaient assez confiants dans leur jeu. Et du coup, vu qu'ils ont reçu plein de mails, plein de sollicitations, ils se sont dit. Il y a de l'intérêt pour notre jeu, on va balancer des clés, et même à certaines personnes, on va balancer même deux clés, voire trois clés, simplement parce que, voilà, après le jeu puisse, pour que le bouche à oreille puisse se faire. Et voilà, donc parmi les youtubeurs, il y en avait dont l'audience était simplement de 300 personnes, d'autres de plus d'un million de personnes carrément. Et voilà, donc à mesure que la date approchait, ils avaient tout ça à gérer, ils avaient encore des demandes en cours durant le week-end de sortie qui était assez atroce, vu que le week-end de sortie, c'est il faut fignoler les derniers bugs, les machins, les bidules, être synchro et s'occuper de la promo partout en même temps. Et à l'issue de ce week-end-là, quelque chose est remonté à l'oreille des développeurs. Et ce quelque chose, c'était un petit sujet sur les forums de Steam, puisqu'il y a des forums sur Steam. Normalement, le jeu coûte 37€ sur Steam. Et là, sur les forums, il y avait des gens qui indiquaient que sur le site g2a.com, qui est une petite boutique en ligne qui refourgue des clés, on pouvait trouver des clés pour leur jeu à 15$. Ce qui fait quand même moins de deux fois moins cher, puisque le jeu à la base est à 37€.
Ouais, ça fait vraiment pas cher, hein. Ça fait même donc, beaucoup moins que ça.
Voilà, le type se dit bon, de 37€, puisque c'est un développeur polonais, donc ils comptent en euros aussi, de 37€ à 15$, même avec le taux de change, tout ce que tu veux et les frais, ça fait quand même un gouffre. Et donc le type se dit bon, est-ce que ça marche déjà? Et donc le développeur, le boss du studio là, il est allé sur g2a.com, il a acheté une clé. Ensuite, il a eu sa clé qu'il doit activer sur Steam, et sa clé s'est rendu compte que c'était une des clés qu'il avait déjà envoyée à quelqu'un. Évidemment.
Ah, le truc d'enfoiré. En fait, il y a des mecs qui ont créé des faux comptes YouTube ou des trucs comme ça pour aller réclamer des clés, c'est ça?
Exactement. Alors, très précisément, la personne à qui il avait envoyé, c'était une personne de Bulgarie pour la clé qu'il a obtenue, vu qu'il a retracé après tous ces machins, à qui il avait donné trois clés, donc le type en a certainement utilisé une pour lui et vendu deux autres. Donc il a commencé à faire ses vérifications, etc., etc. Puis il a découvert petit à petit que parmi les mails qu'il avait reçus, il y avait des mails qui étaient très proches, qui se ressemblaient avec juste une lettre ou un chiffre qui varie, évidemment. Et donc petit à petit, il a remarqué en fait qu'il s'était fait entuber de
dans la précipitation. Dans un week-end.
Exactement, c'est juste impossible pour lui de tout gérer, c'est une petite boîte, quoi. Là, ils donnaient leur cas à eux, ils avaient voulu tout gérer en indépendant, même s'ils avaient une proposition d'Electronic Arts, mais bon, quand on a une proposition d'Electronic Arts, généralement, voilà.
C'est-à-dire que, effectivement, si quelqu'un te propose de te mettre un gros gomichet dans, voilà, donc tu refuses. truc de base, quoi. Vaut mieux dire non d'abord. Après, tu réfléchis éventuellement, mais.
Voilà. Donc, il s'est avéré qu'il y avait quand même une certaine proportion de clés qu'ils avaient balancées, qui s'étaient retrouvées un petit peu dans la nature, comme ça. Et donc, il s'est dit, est-ce qu'on a juste été naïfs comme des poulets, ou alors est-ce que c'est quelque chose qui est un petit peu généralisé dans la profession? Et donc, il s'est dit, allez, moi aussi, je vais faire un connard. Je vais me faire deux, trois adresses mail avec quelques faux comptes, etc. Et je vais envoyer des mails à toute une série de développeurs qui ont leur jeu en cours de développement. Et je vais voir ce qui se passe. Alors, sur, je crois, à peu près environ une centaine de mails qu'il a envoyés, avec
donc, sans, fois... sans développeurs différents ou...
Alors, ouais, je crois qu'en tout, il y a une histoire genre 100 développeurs différents.
Okay. Et il a envoyé à chaque fois 3 mails avec 3 comptes mails différents.
Ouais, genre... il faisait des variations dans les mails, ce genre de choses-là. Et donc, en tout, il a eu... sur la centaine, il a eu, il a reçu une cinquantaine de réponses, et parmi la cinquantaine, en tout, il a eu 15 clés. En fait, il a eu,
ce qui est pas,
voilà. Mais c'est quand même pas mal. Il a eu 16 clés pour 15 jeux différents, en fait. Donc, il y a un jeu pour lequel il a eu 2 clés.
Ouais, ce qui est pas si mal que ça, mais, enfin, oui, enfin, si ça te coûte juste de créer des comptes mails, c'est pas si mal que ça, voilà. Mais que t'as 15% de réussite, quoi.
Ce qui est pas mal, c'est qu'il dit qu'en tout, il a passé 3 heures à faire ça, et que, en tout, avec ses 16 clés, ben, il peut se faire $400 environ. Ce qui fait environ $150 de l'heure, ce qui est plutôt
pas mal payé. Pas dégueulasse. Hein, pas dégueulasse.
Pas dégueulasse. On lui met travailler pour ce salaire horaire-là. Et donc voilà, il a fait ses petites investigations comme ça. Il s'est rendu compte qu'effectivement, bah, toutes les petites boîtes qui n'avaient pas l'artillerie lourde derrière ou l'équipe marketing à la Ubisoft, Electronic Arts, Activision pour gérer tout le traçage, etc. Toutes ces personnes-là pouvaient se faire gruger très très facilement en fait. Et voilà l'histoire. Donc à la fin, évidemment, il a pas utilisé les clés. Il les a renvoyées par mail aux développeurs en expliquant l'histoire. Il a partagé son histoire sur le site Gamasutra. Et je trouvais que c'était assez intéressant. Et que ça témoignait en quelque sorte de la difficulté et de la nécessité d'être absolument très très multicasquette quand on est développeur indépendant, quand on travaille dans des petites structures.
Bah, de manière générale, quand on travaille dans des petites structures, on a intérêt à savoir tout faire, la conciergerie, le ménage, la vaisselle.
Je le fais pas dire.
T'as pas vraiment le choix. Hein. Dès que les structures sont très petites.
Et parfois le boulot pour lequel t'es payé aussi.
Ouais.
Et le café, très important, non. Le café.
Alors, je vous rappelle, on ne gagne pas de l'argent en travaillant. Tu gagnes au loto, tu arnaques ton salaire. Ça, c'est un principe de base.
Tu gagnes en fraudant
on ne tipiaque pas le.
Ça y est,
c'est pas gentil.
Il est déjà bourré.
Oui, bah, non, mais de toute façon. Alors moi je vais vous parler pour finir très très rapidement. Durant cet été, je m'emmerdais un petit peu parce qu'il n'y a pas de dojo bar, vous voyez, voilà, donc c'est con. Faudrait faire les dojo bar summer tour. Tu vois,
pour faire le... On fait ça depuis Hawaï, tranquillement avec du lait de coco
et des daiquiris.
Horaires, ça veut dire qu'on doit le faire là-bas à 6h du matin.
Ah non, ça va pas le faire.
On n'est pas encore couché, c'est bon.
Bah, fin de nuit, on est un peu bourré.
Il va être sportif, hein, le dojo bar, fin de nuit. Bref, donc, je me suis installé un petit script PHP qui transforme, en fait, les recherches qu'on fait sur le Bon Coin en flux RSS. Ça permet de se simplifier un peu les recherches, ça me permet de suivre l'ensemble des annonces qui paraissent dans 2 départements, donc les Yvelines où j'habite et les Hauts-de-Seine qui sont pas loin du tout. Et donc là, ça fait un bon mois et demi que j'ai installé ça. Et je me suis dit, tiens, je vais faire des petites statistiques dessus pour voir un petit peu ce que les gens vendent et tout ça, parce que c'est vrai que quand tu regardes tous les jours, tu t'aperçois qu'il y a quand même des petites tendances. Donc là... Oscar statistique.
C'est l'instant camembert.
C'est
bon appétit.
Voilà, donc là c'est l'instant charts que faut que tu imagines sur des. Voilà, je vais faire des diagrammes, des histogrammes avec des barres. Parce que le plus important c'est ça, c'est qu'il y a des histogrammes et des diagrammes en camembert. Donc sur 15 510 annonces passées depuis à peu près un mois et demi, donc on est à 2500 annonces par semaine, à tes souhaits.
Dans l'ensemble des catégories ou alors seulement
juste console et jeux vidéo.
Ah,
je me suis concentré sur console et jeux vidéo parce que le reste j'en ai un peu rien à foutre. C'est-à-dire Tati Janine qui vend sa 104, ça m'intéresse pas trop. Voilà, donc je me suis amusé à faire des stats, c'est-à-dire à savoir quels sont les mots-clés qui reviennent souvent et qu'est-ce que vendent les gens. Alors d'abord, il faut savoir que sur 15 510 articles depuis un mois et demi, il y a donc 142 PlayStation 4 qui ont été mis en vente. 142 PlayStation 4, ça fait finalement pas si énorme que ça. Dans les 142 PlayStation 4, il y a une PlayStation écrit STAYCHO2NE. Voilà, je pense que ça valait quand même le coup de le signaler.
Attends, ça veut dire que globalement, les joueurs de PlayStation sont lettrés.
Moi, je
trouve que c'est un scoop, quoi. Personne qui s'attendait à ça.
Personne s'attendait peut-être à ça, mais c'est un peu particulier. En comparaison, il y avait en vente 698 Xbox One. C'est quand même assez impressionnant. D'occasion, ouais. 690 Xbox One pour 142 PlayStation 4, donc quand même. Dans le lot, j'ai quand même trouvé 318 personnes qui vendaient le Kinect de la Xbox One seul. Les mecs qui se sont dit, c'est bon, la mise à jour elle est passée, on n'est plus obligé, allez hop, au revoir mémé, à circuler. Donc moi je trouve ça pas mal, hein. Le Kinect seul, 318, c'est quand même pas dégueulasse.
Ah oui, ils sont pas chiants en plus.
Ah oui, non mais ouais, c'est 150 euros, Kinect 2, marche très bien, je m'en tape. Il y en a même un qui avait écrit un truc genre, de toute façon, il n'y a plus besoin.
Il n'y a plus besoin, achète-le.
Voilà. Et alors, le jeu le plus vendu sur le bon coin, donc Antix a deviné hors antenne tout à l'heure, c'est Destiny, toutes consoles confondues, 178 Destiny vendus depuis un mois et demi. Je m'attendais à plus,
normal.
Honnêtement, mais il y a une des annonces où le mec avait écrit carrément « Je vends Destiny parce que lui, super chiant ce jeu ». Pas mal. C'est-à-dire qu'on trouve des tas sur le coin. Faudra que j'essaye de le retrouver parce que là je l'ai en base de données.
C'est très prévisible. Je sais pas comment les gens ils ont.
On peut même dire que
ils
c'était
ont décidé
sa...
de passer à la caisse. Quoi.
On peut même dire que c'était sa destinée.
Il était un peu destiné à ça. Et donc vous serez heureux d'apprendre qu'il y a 1461 Wii qui étaient en vente sur un mois et demi, ce qui est quand même la plus grosse console vendue. Alors, j'ai pas compté le nombre de PS3 et de Xbox 360, mais c'est pareil, c'est énorme, des Xbox 360, t'en as à tous les prix, dans tous les états, avec des lots de jeux. Enfin, j'ai vu des mecs qui vendaient une Xbox 360, deux manettes, un lot de 50 jeux pour 50 euros, quoi. Les gens se défaussent complètement ce genre de choses-là, donc c'est le moment d'acheter les PS3 d'occasion et des Xbox 360, hein. Faut y aller maintenant, c'est
et
pas cher.
Et alors, les Wii, c'est à quel tarif?
En moyenne, la Wii, c'est entre 40 et 50 euros s'il n'y a pas de jeu.
D'accord.
Si elle est complète avec plus de manettes et tout ça, ça a tendance à monter un peu vite.
Voilà. Donc elle vaut quand même plus qu'une 360 ou une PS3.
Elle vaut plus qu'une 360. Une 360 d'occasion, ça coûte moins cher qu'une Wii d'occasion.
Et en plus, sur Wii, il y a des jeux. Pas
alors,
sur
par
PS4.
Contre, la PS3 d'occasion, c'est difficile de trouver en dessous de 100 euros quand même. Hein. Même le dernier modèle, pas évident. Ouais. Et donc, vous apprendrez avec joie et délectation qu'il y a 9 Wii U qui se sont vendus sur les 1 mois et demi.
Ah oui.
Moi, la conclusion que j'en ai, c'est que la Wii U est une console tellement révolutionnaire et tellement bonne que les gens n'ont pas. Voilà, j'ai que ça comme explication.
Ouais. Logique.
Moi, je ne vois que ça. Ça me paraît être le plus logique.
Voilà. L'exact opposé de la Wii.
C'est, voilà, alors que la Wii, effectivement.
Moi, je pense simplement que la France entière lit le dojo. Que par conséquent, ils sont au courant que la Wii U a des jeux.
Ils ont acheté Mario Kart, c'est bon, ils sont bien. Ça va revendre.
Alors, le plus souvent, d'ailleurs, on trouve des packs Mario Kart en vente. Et j'ai vu des packs Zombie U. Enfin, sur 9, c'est facile de faire des stats. Hein, mais il y a genre 3 packs Mario Kart, 2 ou 3 packs Zombie U. Donc, en général, c'est des packs qui sont en vente. C'est assez étonnant. C'est rarement des consoles seules. Bref, nous allons faire une première pause musicale qui va être un poil plus longue que d'habitude puisque, comme on va parler d'Hyrule Warriors juste après la pause, j'ai choisi un morceau de l'OST d'Hyrule Warriors. Je dis tout de suite, avant qu'on commence d'en parler, l'OST de ce jeu est tout simplement extraordinaire. Voilà, allez l'écouter, c'est vraiment, vraiment exceptionnel. On va écouter un morceau qui s'appelle Eclipse of the Moon. Ça dure 5 minutes et on se retrouve tout de suite après.
We'll be right back.
Et nous voilà de retour.
Retour.
Pour parler de des guerriers d'Hyrule.
Tabernacle.
Tabernacle.
Hyrule Warriors.
Hyrule Warriors.
I'm warm.
Alors je tiens à préciser qu'effectivement même les anglophones ont beaucoup de mal à le prononcer. Donc je sais pas ce que c'est le titre japonais d'ailleurs, j'ai pas regardé.
Zelda Musso.
Zelda Musso. Ah oui, bah c'est peut-être plus simple.
Plus facile.
On a qu'à l'appeler comme ça, nous, Zelda Musso. En plus, ça fait un peu Zelda Moussu, donc c'est pas mal.
Zelda Musso.
C'est de la merde.
Alors, qu'est-ce que c'est? Parce que on va commencer par ça. Donc c'est un Musso, c'est-à-dire un Dynasty Warriors en Europe et aux États-Unis. Donc c'est, on va dire, un beat'em all massif, un peu brainless, dans lequel on trucide franchement brainless même, mais pas désagréable. Dans lequel on trucide des dizaines de milliers d'ennemis dans la moindre mission, c'est-à-dire on croirait un film de Schwarzenegger, c'est-à-dire qu'à la fin on arrive à 150 victimes à la minute à peu près, et on enchaîne des combos de fou sur des cartes gigantesques, mais avec une IA qui ressemble à rien.
je crois que l'IA de base ne réagit même pas quand t'es devant lui en fait.
Alors en fait, il se laisse taper. Voilà, alors le truc c'est très curieux quand on joue, moi je l'avais remarqué à la démo, je me suis dit tiens, c'est marrant, les mecs m'attaquent jamais. Et en fait, ma femme avec qui j'ai joué une partie en coop pour essayer justement le mode coop, parce que j'avais un partenaire de jeu disponible.
Tu prends un journaliste total. En fait.
Je suis un journaliste total.
c'est mode coop local. Quoi.
J'y vais avec ma femme. En mode journalisme total, elle à un moment elle s'est dit putain, mais il y en a un qui m'a blessé. Et je me suis dit comment c'est possible quoi.
Alors, en fait, c'était un bug.
Il tape une fois de temps en temps quand même.
C'était un bug.
Ah, il tape une fois de temps en temps quand même, mais ouais, globalement, il tape pas grand chose. En fait, le seul problème de la piétaille, c'est que les gens qui sont de ton côté, donc la piétaille de ton côté, ils s'écartent quand tu avances, alors que eux, ils s'écartent pas. Donc finalement, c'est plus une espèce de mur humain, enfin, de mur de monstre que t'as. Donc t'es obligé de les défoncer simplement parce qu'ils font chier, ils sont dans le passage.
En fait, c'est un peu comme si tu coupais les herbes dans Zelda pour récupérer des rubis et des cœurs.
C'est un peu ça, voilà. Soit tu récupères des rubis et des cœurs, ça c'est pareil.
Ça veut déjà dire que la piétaille qui est de ton côté est plus intelligente que l'autre.
Ah non, la piétaille qui est sur ton côté, si tu veux, quand tu fonces dedans, elle se téléporte à gauche ou à droite, c'est tout. Hein,
Elle est juste un petit peu schizo, quoi.
elle s'écarte un petit peu, enfin elle s'écarte pas, c'est-à-dire que quand tu les bouscules, tu les bouscules. Alors que la piétaille qui est devant toi, tu les bouscules à coup d'épée, quoi. C'est un peu différent. Voilà, je sais pas trop quoi dire de plus.
Mais, tu l'as fini déjà?
Je l'ai pas fini. J'ai fait à peu près une dizaine de missions. Donc, je dois être à peu près à la moitié du mode légende, je crois. Alors après, il y a un mode aventure qui est très 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 long apparemment, puisque c'est sur la... Alors j'ai pas du tout commencé, mais c'est sur la carte originale du Zelda NES. Et en fait, sur chaque case, il faut aller découvrir un secret, aller se battre contre des mecs. Et ça a l'air juste infernal comme mode. À mon avis, il y a moyen de passer une centaine d'heures juste là-dessus, parce que... Non mais c'est chaque case, t'as une mission complète, ça a l'air d'être complètement craqué. Mais j'ai pas essayé, mais ça a vraiment l'air d'être craqué. Donc j'ai fait du mode légende, qui est l'équivalent du mode histoire. Seul... Et donc en coop. Ce que je peux vous dire, c'est que les missions sont longues. La première mission, elle fait déjà un bon 20 minutes. Et les missions suivantes, c'est pareil. T'as des missions qui vont jusqu'à 45 minutes. Donc ça commence à vraiment.
Ouais, quand même. Hein.
Ah, oui.
Ouais, c'est un peu bourrin quand même.
Mais t'as quoi? T'as beaucoup de choses à faire? Les cartes sont énormes? Ou c'est juste que tu passes ton temps à trancher les ennemis hein?
Alors au départ, je me suis dit, je vais me faire chier parce que tu passes ton temps à trancher les ennemis. Parce que ça par contre tu le fais, hein. Passer ton temps à trancher les ennemis, ça t'y as droit. Mais en fait ce qui se passe, c'est que t'es là sur une carte gigantesque sur laquelle il y a des forts. Le fort étant un petit truc carré dans lequel il y a plein d'ennemis qui sont générés. Et l'idée c'est que quand tu t'introduis dans un fort, tu casses la gueule à suffisamment d'ennemis, il y a le boss du fort qui apparaît, le boss fort donc.
Oh
non.
Je m'applaudis moi-même, je me permets. Donc il y a le boss du fort qui apparaît, et une fois que le boss du fort est apparu, quand tu le lattes, en fait le fort il passe dans ton équipe et il commence à générer de la piétaille, mais de ton côté.
Il a capturé la zone quoi.
Enfin, tu captures en quelque sorte la zone. Le truc c'est qu'au départ je me suis dit ah ouais, en fait ça consiste juste à ça, donc je fonçais comme un connard sur les forts, je capturais la zone et je me préoccupais pas du reste. Et à un moment je me suis rendu compte que non, c'est pas tout à fait comme ça que ça Au départ, on te dit, ouais, faut aller péter la gueule à ça, à ça, à ça. Mais en fait, pendant que t'es en train de le faire, il y a toujours un truc qui se passe. Donc, t'as jamais 5 minutes pour respirer ou pour te concentrer sur un truc. T'as toujours un mec à un moment qui dit, putain, faut que tu viennes m'aider parce que là, il y a 10 connards après ma gueule et faut vraiment que tu viennes me filer un coup de main. Il se passe plein d'événements, en fait, au cours d'émission qui fait que c'est toujours super varié.
Ouais, ah, du coup, ça demande un peu de gestion et stratégie, quoi, parce que tu peux pas tout faire, j'imagine.
Alors, il y a des trucs que t'es quand même obligé de les faire. Voilà. C'est-à-dire qu'il faut que t'arrives à trouver le temps de tout faire. C'est pour ça que quand tu joues à deux, c'est vachement intéressant parce que finalement, il y en a un qui peut se concentrer sur conquérir les forts, repousser tel ennemi dangereux à tel endroit, voilà, pendant que l'autre va aller secourir Machine qui s'est perdue dans la forêt, Bidule qui s'est brûlé en allant chercher son café, parce que c'est à peu près ça quand même, hein, le niveau du truc.
Tu joues aux Sims en fait.
Ça, ouais, ils sont tous cons, ils posent la vaisselle par terre, t'es obligé de leur dire d'aller faire la vaisselle. Mais voilà, non mais c'est genre il y a une mission où t'es dans la forêt Kokiri et à un moment il y a la sorcière je sais pas quoi qui met le feu à l'arbre Mojo, donc faut que t'ailles trouver un moyen d'aller faire pleuvoir ou je sais pas quoi pour que l'arbre Mojo s'éteigne, enfin vraiment faut que t'ailles te bouger le cul pour aller faire ça, il faut le faire tout de suite parce que c'est genre si tu l'as pas fait dans les 5 minutes c'est mort quoi, tu perds la mission.
Le chrono toujours. Est-ce que je veux dire tout ça comme tu dis vu que ça apporte plein de variété, est-ce que sans ça le jeu serait hyper répétitif ou est-ce que malgré ça il est quand même hyper répétitif, est-ce que ça comment la sauce prend à ce niveau là, est-ce qu'on s'est pas chié un peu à la longue?
Alors la première fois que tu fais une mission tu te fais pas du tout chier parce que tu sais jamais ce qui va tu sais jamais à quoi t'attendre, c'est vrai que de ce point de vue là t'as toujours des surprises. Ça m'est jamais arrivé jusqu'à présent de commencer une mission en me disant bon ça va être facile, enfin tu sais tu regardes la carte de début de mission et tu dis bon bah ça va être facile, je fais ça et puis le problème est réglé. Non, il y a toujours un truc qui intervient au milieu, il y a toujours des surprises, voilà. Donc de ce point de vue là il n'y a pas de problème, en tout cas au moins la première fois que tu fais une mission tu peux pas t'emmerder, c'est pas possible. Maintenant le problème c'est que les missions t'es quand même obligé de les recommencer si tu veux les compléter, ramasser plus d'armes, commencer à upgrader tes personnages et tout ça, t'es obligé de faire du grind un petit peu, d'aller
aussi,
refaire des missions et des missions.
T'as aussi du scoring dedans, genre de truc là.
T'as du scoring dedans, alors c'est assez limité, mais on va dire que sous certaines conditions de victoire, tu peux ramasser des médailles qui servent à rien d'ailleurs, si je me rappelle bien. C'est vraiment juste. Ah, tu as réussi à vaincre 10 000 ennemis dans cette mission. Oui, c'est des trucs comme ça, c'est genre 10 000 ennemis quoi.
Ça sert juste à faire grandir ton zizi.
Ça sert juste à faire grandir ton zizi. Donc ça sert pas à grand chose, mais voilà, mais t'es quand même un tout petit peu obligé de refaire quelques missions, ne serait-ce que pour refaire de la collecte d'objets, pour pouvoir forger des armes un peu plus puissantes, parce que sinon, il y a quand même des missions où tu galères un tout petit peu. Parce que la piétaille de base, elle commence quand même à être vachement costaud à un moment, et elle t'empêche vraiment de passer, c'est chiant.
Tu
peux pas avancer. Ouais, c'est gros bâtard.
De l'herbe résistante.
Et après, la variété vient surtout du fait que il y a énormément de personnages jouables. Je sais pas si c'est le cas dans les Dynasty Warriors d'habitude, d'avoir autant de personnages jouables.
Ouais.
Avec des styles très très différents en plus, donc vraiment il n'y a pas un personnage qui se joue de la même manière, des attaques toutes différentes, même si le principe de base reste toujours le même. Les attaques sont toutes différentes, la façon de gérer les attaques fatales et les attaques magiques sont assez différentes à chaque fois. C'est-à-dire que t'as pas le même radius, t'as pas le même machin, et il faut voir que chaque personnage a aussi des armes que tu peux changer.
Ouais, donc, et que tu peux faire évoluer aussi, je pense, non ?
Et que tu peux faire évoluer. Donc tu peux vraiment...
Contenu, quoi.
Ouais, voilà, il y a du contenu, et ce qui fait que tu t'emmerdes pas, en fait, c'est que tu utilises quasiment jamais le même personnage dans les missions, c'est-à-dire que chaque mission a un personnage, on va dire, recommandé, donc tu peux le faire avec qui tu veux, mais t'as quand même intérêt de varier un peu, et à chaque fois, tu vas te retrouver à choisir une arme différente, donc voilà, le combo personnage plus arme fait que t'as toujours de la variété dans la façon dont tu joues, donc tu t'emmerdes pas trop. Et le déroulement des missions fait que t'as prise et donc au moins la première fois tu t'emmerdes pas trop. Maintenant c'est vrai que globalement ça reste un truc qui est assez bourrin répétitif quoi. Voilà, faut quand même pas s'attendre à un truc ultra varié avec du combo au poil de cul, c'est pas Bayonetta. Voilà, c'est du beat'em all massif dans lequel tu vas essayer.
C'est beaucoup moins technique.
C'est beaucoup moins technique que même qu'un Mad World par exemple qui était relativement. Enfin si tu voulais commencer à faire un peu de score dessus, il fallait être un peu technique.
Ouais.
Là, ça m'a beaucoup rappelé un jeu que j'avais beaucoup aimé sur GameCube, qui est Spartan Total Warrior. C'est un jeu très méconnu, pourtant très très bon, qui est une espèce de beat'em all massif comme ça, dans lequel effectivement tu tues 300 ennemis à la minute. Et voilà, moi ça m'a beaucoup rappelé ce jeu-là, donc effectivement la référence dira peut-être pas grand chose à grand monde, mais voilà, c'est du beat'em all massif dans lequel ben, tu vas aller trucider des gens. Le truc, c'est que là, c'est beaucoup plus varié grâce aux personnages et grâce aux armes. Et ouais, le mode légende est quand même bien branlé au sens où t'as pas une seule mission dans laquelle tu vas vraiment t'attendre à tous les événements qui arrivent. Il y en a quelques-uns qui sont prévisibles, tu te doutes qu'il y a des retournements de situation qui vont arriver. Mais il y a quand même des moments où tu t'y attends pas trop et t'es obligé d'aller rebrousser chemin, d'aller péter la gueule à un truc, d'aller. Les mecs te mènent quand même par le bout du nez comme ils veulent.
Et le coop, ça fonctionne bien ?
Et le coop, ça fonctionne bien, c'est une bonne question. C'est assez bizarre parce que le coop est à 30 images secondes, même sur la télé. Donc le jeu de base, quand tu joues tout seul, il est à 60 images secondes, il est super fluide, il y a très 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 peu de ralentissement, même quand t'as énormément d'ennemis à l'écran. Alors faut voir que les ennemis, bon, vu qu'ils branlent rien, ils doivent pas consommer beaucoup de mémoire.
Ouais, faut les mettre quoi.
Ouais, voilà, faut les mettre, mais même quand t'as plein d'effets visuels, plein de bordel à l'écran, finalement, ça reste assez assez fluide. À deux, ce qui est assez troublant, c'est le fait que effectivement ce soit en 30 images secondes, ça se voit. Je veux dire, tu sens que le jeu est pas aussi rapide.
Ouais, tu vois la différence par rapport.
Tu vois la différence.
Force. Quoi.
Surtout sur la télé, à la limite sur le gamepad tu le vois un petit peu moins, mais sur la télé tu le vois bien. Et c'est très sympa de pas avoir d'écran splitté.
C'est que gamepad et télé.
Ouais, c'est que gamepad et télé.
Bon, c'est déjà pas mal.
Enfin, c'est peut-être, il y a peut-être d'autres modes, mais je les ai pas vus en tout cas. Je suis en train de me poser la question parce que j'ai même pas regardé. Mais pour moi c'est que gamepad et télé, et c'est très sympa du coup parce que chacun a son grand écran, chacun a sa carte, donc voilà, c'est assez facile de se retrouver parce qu'il y a quand même des gros indicateurs pour dire bah l'autre joueur il est à peu près là.
Ouais, et la carte m'avait l'air assez bien visible.
Ouais, c'est les chemins sont quand même assez visibles. Oui. L'objectif c'est pas de te paumer, hein, c'est. Au contraire, c'est que tu puisses te retrouver assez facilement.
J'avais vu les cartes et t'avais quand même t'avais l'air d'avoir des grosses zones à chaque fois qui étaient bien connectées visuellement, quoi.
Ouais, non, c'est clair que. De toute façon, les cartes restent quand même assez basiques. Ce qui est rigolo, c'est que ce sont les décors de. C'est les décors de Zelda, quoi. C'est très classique, la forêt Kokiri, le château d'Hyrule, le machin. Enfin, voilà, c'est. T'es sur du classique mais efficace.
Est-ce qu'en termes d'univers, est-ce que c'est un jeu qui s'adresse plus aux fans de Zelda ou simplement aux fans de Beat'em All ou un petit peu des deux ou quoi ?
Alors, je vais te donner mon ressenti à moi. Parce que moi, je suis. Alors, Dynasty Warriors, je connaissais de nom, je savais à peu près ce que c'était, je savais que c'était du Beat'em All massif. J'y avais jamais joué. Mais alors, jamais, jamais. Et sincèrement, le prochain Dynasty Warriors qui sort, peut-être que je m'y intéresserai.
Ah ouais.
Donc, je me dis, voilà, pour le fan de Zelda, c'est un bon spin-off, c'est-à-dire que c'est un bon jeu, il n'y a vraiment pas de doute là-dessus, il y a énormément de contenu. Alors certes, c'est répétitif, mais à mon avis, t'en as pour ton argent, même sans les DLC ni rien, t'en as vraiment pour ton argent, il y a déjà...
DLC qui coûte pas vraiment cher, qui a moins d'avoir tout ce qui va sortir comme DLC pour une quinzaine d'euros.
Alors après, je sais pas exactement ce qu'il y a dans les DLC, j'ai pas regardé le contenu encore.
Bah, il y avait des personnages, des armes...
T'as Epona dans un des DLC, je crois.
Ouais. Epona, ce sera une arme.
Alors j'ai vu, je sais pas si vous connaissez The Completionist, qui est
une émission,
un ancien YouTuber, on va dire. Il est toujours sur YouTube, mais en fait il fait ça sur son propre truc maintenant, qui s'appelle Jared Khalil, je crois, quelque chose comme ça.
Ça me dit quelque chose.
Il a fini Hyrule Warriors en une semaine, mais genre fini à 100%, donc débloqué toutes les médailles, fini tout le mode aventure, fini tout le mode légende. Il a mis 260 heures.
Ah oui, quand même.
Et c'est plutôt le gars qui bourrine.
Ouais.
Donc en termes de contenu, je pense que t'en as pour ton argent, même sans les DLC.
260 heures en une semaine ?
Il a fait 14 à 15 heures par jour.
Mais c'est des semaines de 10 jours, des semaines avec 20 jours.
Il avait commencé un peu avant, donc il a pas dû faire une semaine tout à fait, mais voilà, il a fait 260 heures au total.
Ouais. Si tu veux caser 260 heures dans une semaine, il te faut beaucoup plus que 7 jours.
Ah, tu vas peut-être pas beaucoup dormir.
Ouais,
mais je pense qu'il l'a fait sur deux semaines ou quelque chose comme ça, mais il a vraiment brûlé.
C'est pour vous donner
une idée en termes de contenu et de choses à débloquer et tout ça. Si t'as vraiment envie de te le faire à 100%, tu vas y passer un moment.
Faut juste pas se faire chier, quoi, à la longue.
Bah, le problème, c'est que je pense que malgré tout, tu dois quand même un petit peu te faire chier.
Ouais, ou alors faut vraiment être fan du genre. J'avais demandé l'avis d'un pote qui a chopé le jeu, qui lui est classiquement joueur plus PlayStation que Nintendo, et il n'a jamais joué à Zelda, mais il est fan de Dynasty Warriors, et donc maintenant il a une Wii U, il a chopé le jeu, et il dit que c'est vraiment un très bon Dynasty Warriors, de long en large, quoi, que c'est vraiment super, et que... il faut à chaque fois trouver la petite astuce pour battre le boss, tu sais, même si on donne des indices, j'imagine, pendant les boss, ça alors, c'est un boss où tu dois peut-être un petit peu essayer des trucs, je sais pas.
Le problème, c'est que voilà, quand t'es fan de Zelda, les boss finalement.
Tu lui balances la bombe. Dondogo,
tu balances les bombes quand il aspire. Tu lui mets une flèche dans l'œil. Enfin, tu vois, c'est. Ça reste assez bateau. Surtout qu'en général, à un moment, t'as une mission secondaire où t'as une. Tu sais, t'as un machin qui te dit « Ah là là, Link, vite, il faut aller chercher à tel endroit, libérer machin, parce qu'il est dans la merde. »
Sinon, la pharmacie, elle va fermer.
c'est chaud. Ou t'as un machin qui dit « Ah, il est coincé à Monoprix, sa carte bleue passe pas. » Bon, voilà, donc t'es obligé d'y aller. Donc t'y vas, tu pètes la gueule à plein de trucs, entre deux, tu tailles de la piétaille, enfin comme d'hab, quoi. Et une fois que t'arrives sur place, il fait « Ah ah, nous avons trouvé un coffre mystérieux !» Dans le coffre mystérieux, « Ah ah, il y a un arc !» Et puis après, t'as le truc genre « Ah, Goma est arrivé à l'autre bout de la carte !» Il y a quand même c'est un peu classique, je me moque un petit peu. À partir de la 7-8ème mission, ça devient pas si évident que ça, quand même. Mais c'est vrai que sur les premières, c'est quand même assez... C'est bateau, quoi. Faut pas... C'est pas de la grande stratégie, de toute façon c'est pas fait pour ça, hein. c'est plus du défouloir. Mais en tant que fan de Zelda, je pense que ça peut être un jeu intéressant. Moi sincèrement, le prochain Dynasty Warriors qui sort, s'il sort sur Wii U, je pense sincèrement que je le prendrais peut-être d'occasion ou quelque chose comme ça, mais je pense que j'y jouerai.
Ou bien t'auras eu ta dose d'ici là.
Ou peut-être que j'en aurais eu marre d'ici là.
Ou bien tu te seras dit, bon, j'aurais tâté Bayonetta 2 d'ici là, finalement la Dynasty Warriors, lol.
Ça ferait un peu lopette.
Ouais.
Donc voilà, mais pour le fan de Zelda, en l'état actuel, pour le fan de Zelda, je pense que c'est un jeu qu'il faut faire. Même si on fait juste le mode légende et un petit peu de mode secondaire, je pense que ça vaut le coup d'être fait. Parce que c'est quand même... L'intégration de l'univers de Zelda est quand même pas si mal foutue que ça. Les musiques sont vraiment très très bonnes. Je répète, effectivement, il y a des gros trucs de métalleux pas toujours très original, mais il y a vraiment quelques remixes qui sont juste extraordinaires et il faut vraiment les entendre. C'est quelque chose que j'ai très très peu entendu. Toutes les critiques sur le jeu, j'ai très peu entendu parler de la musique, alors que pourtant elle est vraiment très bonne. C'est un vrai plaisir de retrouver certains univers de Zelda un petit peu remaniés. Ça se joue quand même bien, je veux dire, le mode légende, il passe bien, c'est agréable. Débloquer toutes les armes, c'est pareil, c'est quand même assez marrant. Enfin voilà, tu t'amuses
plus,
bien.
On peut y jouer aux toilettes en plus.
On peut y jouer aux toilettes, extrêmement important. Et donc, comme tu disais, le fan de Dynasty Warriors, je pense qu'il s'y retrouve aussi parce que c'est pour moi un très bon Dynasty Warriors. Alors, est-ce que c'est une bonne initiative? Moi, ce que je me posais surtout comme question, c'est est-ce que vous voyez d'autres licences de Nintendo qui pourraient se prêter à ce type de crossover un peu curieux?
Je dirais Fire Emblem.
Ouais.
Bien que ça me coûte de dire ça, mais il y a avec les armes, les personnages, j'avais plein de personnages, donc il y a de quoi faire.
Pas forcément avec Muzo, mais je pensais avec une autre série, Street Fighter, Street Fighter versus Fire Emblem. Attendez deux secondes.
Tu mets Captain Falcon dans Street Fighter et c'est bon, hein.
Smash Bros.
Ah bah, c'est pas grave.
Il y a Smash Bros.
Il y avait bien Link dans Soul Calibur 2.
Il y a Smash Bros.
Non mais c'est bon. Après ça.
Allez, on va t'enchaîner sur Smash Bros.
Après, c'est Smash Bros.
Voilà, on va faire du Smash Bros parce que là, je me sens tous impatients quand même de parler de Smash Bros. Alors ce qui est bien, c'est que comme j'ai pas chargé la playlist, il va falloir meubler.
Ouais.
Donc ça le fait. Donc voilà. À titre personnel, je pense que Hyrule Warriors vaut le coup. Voilà, si vous êtes fan de Zelda, ça vaut le coup. Si vous êtes fan de Dynasty Warriors, ça vaut le coup. Et ça reste un bon jeu. Donc on va écouter un autre morceau de la BO de Hyrule Warriors. Un morceau qui s'appelle Focal Line. Tu veux bien arrêter ton cirque?
Hâte de faire la cocotte.
Je prends la porte et je m'en vais.
Morceau qui s'appelle Focal Line, qui dure à peu près 2 minutes. Donc c'est un morceau très dynamique qui est en fait utilisé quand il y a des boss ou des trucs comme ça. Et voilà, on se retrouve dans un tout petit peu plus de 2 minutes. À tout de suite. Et nous voilà de retour. Avec des difficultés. Ça y est, c'est bon. Non, ça suffit, s'il n'y a plus besoin de meubler.
Ah, ça va alors. Avant qu'on commence, il y a Picasso qui nous dit sur Twitter que lui verrait bien justement des crossovers avec Fire Emblem et surtout avec Pokémon. Et il nous précise qu'il y a déjà eu un Pokémon Conquest qui est un croisement de Pokémon évidemment et de la série Nobunaga Ambition qui est je crois un jeu de stratégie, un truc du genre.
Un dungeon crawler, sur, non sur...
Non, c'est un tactical RPG de mémoire.
C'est un tactical RPG, d'accord.
Ouais. Il est sorti sur plein de supports depuis les années 80.
D'accord.
Et donc, on va parler de Smash Bros.
Et donc, on va parler de Smash Bros. Alors, honte à moi.
Le mec disait en arrière.
Voilà, honte à moi. Alors, je voulais préparer un petit jingle pour dire on va parler d'eux et puis mettre le jingle, mais j'ai oublié de le faire.
Voilà. Ah, méchant.
Ah, ça va donner
donc,
trop bien.
Je vais maintenant.
On a perdu 10 auditeurs à cause de
voilà,
ça.
Je vais maintenant enfiler le bonnet de la honte que je garderai jusqu'à la fin de l'émission.
Jusqu'à la fin de temps, ouais.
bon, alors, ce qu'on s'est dit un petit peu pendant la pause, là, je vais rentrer un petit peu dans les coulisses du Dojo Bar. Je ne sais pas si vous vous rendez compte à quel point vous êtes privilégiés, chers auditeurs.
Making of.
Si on parle de tout, on va y passer 8 heures. Là, effectivement, on va y mettre jusqu'à 6 heures du mat. Donc, on va essayer d'abord de se concentrer sur les modes de jeu, puis on verra un petit peu les personnages, surtout ceux qu'on a pu essayer, qu'on n'avait pas pu essayer pendant notamment les différentes démos. Je vous renvoie à l'émission qu'on avait faite en juin dernier sur le petit événement que tenait Nintendo après le 3, où on avait pu essayer pas mal de choses sur
Splatoon,
mais voilà, on avait aussi beaucoup essayé de Smash Bros, et on avait donné déjà notre ressenti sur les quelques personnages qu'on avait pu essayer. Là, on va essayer de compléter, et on va finir avec notre ressenti global du jeu, voilà, ce qui marche pas, ce qui est sympa, ce qui est pas sympa, ce qui est moins sympa, parce que on a quand même quelques petits reproches à lui faire, même si ça va être, je pense, assez léger au final. Voilà. Je vais laisser Camarade Antix commencer avec les modes de jeu, parce que il se trouve que c'est lui qui a le plus retourné le jeu jusqu'à présent.
Bah, on va dire que Micromania était légèrement en avance sur la date de sortie, ce qui fait que ça fait une semaine que je l'ai, en fait. Donc les modes de jeu, on a du classique, hein, y a le mode principal qui est le mode chacun pour soi, qui est le plus gros bouton du menu, on peut pas le louper. Pas grand chose de nouveau, y a même des trucs en moins je dirais, vu qu'on peut plus faire de match avec les pièces. Enfin bon, qui en faisait? C'est la grande question.
C'était pas foufou quand même. Hein.
Mais ouais, dans l'ensemble, y a rien de... Ah, on peut plus faire des matchs spéciaux, genre avec toujours à 300% ou tout le monde en géant, ça c'est un petit peu dommage parce que c'était vraiment rigolo.
Tu peux plus faire de matchs spéciaux genre mort subite
c'est ça
t'es... ah merde ça j'avais pas vu
et après dans l'ensemble c'est la même chose qu'avant quoi. La petite subtilité tant que maintenant tous les terrains peuvent être choisis en version destination finale, c'est à dire qu'on aura juste un grand terrain plat mais avec le skin et les musiques du terrain, donc, par exemple la vallée Gerudo avec la musique avec le remix de la musique de la vallée Gerudo et le skin de la vallée Gerudo
pour les PGM qui aiment pas les objets.
Ouais, qui aime bien les théraplomes, on a d'ailleurs quelques nouveaux objets, mais je sais pas si ça vaut le coup d'en parler. Il y a toujours le ballon de foot qui est génial. Donc
les nouveaux objets, c'est pas foufou non plus, enfin ça reste dans la veine de ce qu'on avait.
Il y a rien de transcendant. J'ai trouvé que c'était quand même un peu mieux équilibré que Drumroll où t'avais vraiment beaucoup d'objets surpuissants. Voilà, c'est un peu moins le cas, je trouve.
Bah, t'as toujours le marteau qui fait chier tout le monde.
Oui, non, mais ça c'est,
ouais, c'est la base.
Ça c'est génial le marteau.
C'est la base depuis 15 ans.
C'est mon petit combat. Voilà. Donc ouais, non, rien de nouveau à signaler du côté du multi. En solo, classique All-Star. Sachant que cette fois le mode All-Star est débloqué de base et qu'une fois qu'on a tous les persos, on aura. Enfin, il y a deux versions, la version avec les persos de base et la version avec les personnages une fois qu'on a débloqué tout le monde. Parce que c'est un petit peu plus long, mais ça change pas grand chose. La petite subtilité maintenant sur le mode classique, c'est que la difficulté, c'est comme dans Kid Icarus. On choisit une intensité en payant avec l'argent du jeu. Et à chaque fois qu'on a un game over, la difficulté baisse. Et en fonction de la difficulté, le boss final change. Ça, c'est plutôt cool.
Elle baisse d'un demi à chaque fois, c'est ça?
Je crois que c'est ça. Et tu perds de la thune au passage et des récompenses, genre les trophées ou les accessoires pour la customisation. Bon, je vais peut-être enchaîner tout de suite là-dessus d'ailleurs.
Alors, vas-y, oui. tant que tu y étais parti.
Parce
donc,
que c'est on va dire, c'est la nouveauté de ce double épisode.
C'est le deuxième gros morceau, en fait.
On va dire. C'est ça. En fait, c'est lié. Enfin. C'est très lié à un mode qui est l'Adventure Smash, qui est une variante de City Trial de Kirby Air Ride pour ceux qui connaissent. On est lâché dans une grande zone avec des ennemis, des coffres et des secrets un peu partout. Et le but avec son personnage, c'est de visiter un peu tout, de récupérer le plus d'améliorations possible. Donc améliorer sa vitesse, sa capacité à sauter, sa défense, son attaque. Et on a 5 minutes pour ça. Il y a des événements de temps en temps aléatoires qui peuvent te rendre tout petit, t'obliger à utiliser les... Enfin, tu pourras gagner uniquement la même amélioration, par exemple, que de la défense pendant quelques minutes. Plein de petits événements qui se passent et qui se terminent à la fin sur un match d'une minute. Qui est une mêlée spéciale, donc celles qui ne sont plus disponibles en multi maintenant. Il faudra passer par l'aventure Smash pour le faire, ou des petits défis du style aller jusqu'à l'arrivée. Donc ceux qui ont joué à mêlée et au premier, il y avait un mini-jeu comme ça en mode classique, et ben, maintenant il a été mis dans ce Adventure Smash en guise de combat final. Et le gagnant du combat final gagne la partie.
Et du coup, moi j'avais déjà dit que je trouvais que le mode aventure Smash n'était pas terrible, enfin moi je trouvais pas ça extraordinaire. J'ai pas réessayé entre deux. Est-ce que toi maintenant que tu l'as un petit peu plus pratiqué, tu trouves que...
Moi j'aime beaucoup le Kirby, le Citriol. Un petit défaut quand même que j'aurais à donner, c'est que au final j'ai l'impression que les gens qui sont avec toi, enfin moi je joue qu'avec les ordi, n'apparaissent pas sur la carte, ce qui fait que c'est dommage, je peux pas leur casser la gueule pour leur piquer leur bonus comme dans le Citriol.
Ah merde!
C'est un peu con ça. C'est une impression ou...
Pendant les 5 minutes, tu peux pas te...
J'ai jamais réussi à croiser qui que ce soit, et même en essayant de les poursuivre sur la carte, je crois que je les ai jamais vus.
Les cartes sont trop grandes.
Alors peut-être que l'ordi est configuré pour t'éviter, mais enfin ce serait un peu dommage. Ouais, la carte est quand même assez grande. Hein.
Alors après, je sais pas, j'ai pas essayé en. Parce que l'info, on l'avait essayé à deux, enfin on l'avait essayé tous les deux, je crois pas qu'on s'était croisé non plus. Ouais.
Il y a un mode multi, mais bon, j'ai pas pu. J'ai personne seulement pour le faire. Mais ce qui me plaît beaucoup dans ce mode, c'est juste qu'avec les améliorations que tu obtiens, bah, t'as des personnages qui ont vraiment des propriétés qui sont modifiées. Et c'est vraiment le mode qui a été fait pour mettre en avant la customisation, puisque chaque personnage, puisque c'est ce qui va permettre par exemple, de gagner certains combats. Par exemple, pour celui à l'arrivée, ben, plus t'as de vitesse, mieux c'est. Donc si t'as plus plein de bonus de vitesse et que t'as créé un personnage avec un bonus de vitesse avant, ben, c'est encore mieux. Et moi qui adore bouger à fond la caisse dans Smash Bros, ce mode est génial pour moi. Enfin, je m'amuse beaucoup dessus.
D'accord. Donc ça fait...
Donc, globalement, du coup, en fait, quand tu joues en ligne à ce mode-là, t'es tout seul pendant 5 minutes et après t'es contre les autres, c'est ça ?
Non, en fait c'est pas un mode en ligne, je l'ai pas souvenir de l'avoir vu dans le menu, peut-être avec les amis, mais en fait tu joues, c'est un jeu qui a un mode qui joue en ligne, et mais sur la carte j'ai jamais rencontré personne, quand t'es en solo tu joues contre les ordi, simplement.
Ah ouais, mais si t'es en ligne.
Je sais pas s'il existe en ligne.
Bah, il me semble, non.
Bah, j'ai pas pratiqué en ligne, donc je saurais absolument
pas te dire. Je saurais pas te dire non plus, parce que je... Alors, est-ce que t'as joué un peu en ligne, du coup, tant qu'on est dans les modes de jeu
Ouais, bah, j'ai joué un petit peu en ligne.
Parce que moi, j'ai pas du tout joué en ligne. J'ai vraiment fait que du mode Smash, donc.
Donc, j'ai fait, je crois que j'ai fait un petit peu de tout en ligne, donc avec les amis, où ça marchait plutôt bien. Là, t'as accès à absolument toutes les options d'un mode multijoueur classique de Smash Bros. Il y a le mode pour le fun où là c'est que des matchs de 2 minutes avec des objets et tous les terrains possibles, qui est vraiment le mode où tu joues sans trop te prendre la tête.
Ouais, c'est l'espèce de mode un peu convivial, effectivement. T'en as marre des PC, tu vas te friter contre des vrais mecs, mais tu gardes le côté un peu.
Tu gardes le côté fun, t'es pas là pour gagner. Et si tu veux jouer pour les stats, pour le rank,
t'as le mode.
Pour le zizi, ouais, pour grossir ton pénis, tu as le mode pour la gloire.
Moi, je propose qu'on ait ça, jouer pour le zizi.
Et alors celui-là, j'ai beaucoup pratiqué. Enfin, t'as trois versions. T'as une version chacun pour soi. Le mode pour la gloire, c'est donc le mode avec les statistiques. Où il n'y a pas d'objet et tous les terrains sont en mode destination finale.
Et c'est le mode
gros gozo.
T'as grosso merdo trois variantes qui sont en chacun pour soi, qui à mon avis n'est pas la plus intéressante, puisque c'est encore du temps, 2 minutes, et tu peux faire assez facilement voler les kills. Même si t'étais en train d'acheter sur le mec, il y en a un qui arrive derrière, qui met un smash, et hop, il le tue à la place.
Oui, mais voilà, mais ça c'est comme n'importe quel truc où t'es chacun pour soi.
C'est ça, t'as la même chose, t'as du 2 contre 2, et t'as enfin le duel, qui est le seul mode en fait en vie. Qui est celui que j'ai le plus pratiqué, parce que c'est souvent celui où j'ai le moins de lag. Parce qu'on a le petit souci du mode en ligne de Smash Bros, c'est que dès que t'en as un qui lag dans la partie, ben, c'est le cas de tout le monde.
Ouais, c'est le cas de tout le monde.
Ça fait ralentir pour tout le monde, c'est ça.
Et c'est assez énervant, on va dire. Mais c'est un mode voilà, où les matchs durent 5 minutes maximum et chacun des deux participants a 2 vies. Donc ce qui est, voilà, c'est le, on va dire, c'est le mode pour ceux qui veulent faire du compétitif à Smash Bros. En tout cas en ligne. Ben, ça marche plutôt bien, en tout cas au niveau du monde en ligne. Bon, à part les, bon, l'histoire de lags, évidemment, si on a qui lags, ça pose souci. Moi, j'ai quand même eu assez souvent des petits dégalages entre le moment où j'appuie sur la touche et le moment où le coup part, ce qui est extrêmement énervant quand on essaie d'être un minimum précis. Et c'est ce qui est un peu le plus gros reproche que je ferai au mode en ligne pour l'instant, avec le fait qu'en mode duel de vie, je trouve que c'est vraiment assez peu. Parce que même si les combats du coup durent, sont assez rapides, tu peux enchaîner assez rapidement avec la même personne. Parce que du coup, il y a pas quand tu finis un match, tu continues avec le même, jusqu'à ce qu'il décide de se barrer ou que t'arrêtes.
Ah ouais. Donc du coup, ça, ce mode-là pour la gloire, c'est le. Il y a quoi ? Il y a une espèce de classement en ligne ou comment ça marche ?
Non, t'as des statistiques. Je crois que t'as le classement, l'espèce de truc puissance match qui est en fait un classement inversé. On ne dit pas si c'était le premier sur temps. On dit en fait t'es devant 1000 personnes ou 10 000 personnes.
Ah ouais. D'accord.
Mais il n'y a pas de classement, quoi. Enfin, globalement, Sakurai et Nintendo, ils sont pas vraiment voulu aller là-dedans, quoi.
Ouais. Et parce qu'ils ont déjà fait un mode quand même, ils ont déjà fait un mode destination finale, ils ont quand même essayé de pousser un tout petit peu de l'e-sport, même si ça reste très léger.
Mais disons grosso modo, mais par voilà. rapport au mode pour le fun, enfin, je veux dire, le seul truc différent, c'est que les gros joueurs vont peut-être se diriger un peu plus vers le pour la gloire parce qu'ils savent qu'ils retrouveront peut-être plus de challenge.
Ouais, c'est ça, moi j'ai vu qu'il y a quand même
grosso modo, c'est tout, ouais.
Il y a quand même un bon niveau en pour la gloire. Quoi, si tu veux tester ton skill, ça va, quoi. Bon, après, le problème, c'est que Smash Bros, quand t'es obligé de jouer en Wi-Fi, je pense que ça doit jouer un petit peu sur cette histoire de délai entre le moment où t'appuies et l'action à l'écran.
Ouais. Minime à mon avis, c'est vraiment la connexion qui va tout faire, je pense.
Ouais, enfin globalement, pour avoir déjà fait les tests en Wi-Fi en filaire, au final, ça change la gigue, c'est-à-dire l'écart type en fait entre les temps de réponse. Je vais pas expliquer exactement parce que j'avais déjà expliqué ce que ça donnait, et puis enfin, voilà, c'est un petit peu pas très intéressant. Mais pour des applications temps réel comme ça, ça peut jouer un petit peu, mais au final, c'est quand même le temps de réponse de ta connexion qui joue le plus.
D'accord. Hein.
Faut pas rêver, c'est le fait de jouer sur internet, je pense, qui fait que de toute façon.
Ah, ça voilà. sera pas aussi optimal que.
Quand local, ça c'est.
Quand local, ça c'est clair. Mais en tout cas, c'est vraiment un modeling qui marche plutôt bien, beaucoup mieux que celui de Brawl pour le coup. Parce qu'il y a plus, enfin bon, déjà il y a plus de monde.
Déjà parce qu'il marche plus.
Ouais, celui de Brawl marche plus. Et même à l'époque où il marchait, c'était quand même assez désagréable à jouer. Là, je veux dire, ça rame encore. Il y a des moments où, bah voilà, dès que tu commences à être 3, 4, ça devient un petit peu plus dur. Mais dans l'ensemble, c'est un mode en ligne qui est déjà quand même plutôt correct. Même si on pourrait se faire voir mieux.
Okay. D'accord. Alors, on va peut-être enchaîner sur les personnages, puisque maintenant on avait déjà fait pas mal de personnages. Oula, qu'est-ce qui se passe ?
Quoi ? Ça a dû un peu souffler.
On va peut-être enchaîner sur les personnages, donc, puisque là on en avait joué quelques-uns lors de l'événement de Nintendo, mais finalement pas tous. Là maintenant, on a pu jouer quasiment tous les nouveaux. Alors je précise que les anciens se jouent toujours de la même manière. Je crois qu'il n'y a pas fondamentalement de différence.
Enfin, le seul personnage où j'ai vu une grosse différence, c'est Bowser, qui est pour moi nettement meilleur qu'avant. Enfin, moi qui aime beaucoup le personnage et qui aimait bien le jeu dans Melee, je me suis quand même assez rapidement rendu compte qu'il était un peu limité.
Il pue du cul.
Et là, on a un personnage qui bouge bien, qui tape vraiment fort. Enfin, son nouveau smash où il te fait un dropkick.
Ah oui, c'est sympa,
plus vite
ça.
Qu'avant et une meilleure portée, donc ouais. Bah, voilà, moi qui pour l'avoir fait sur des matchs en ligne et en mode solo, je trouve Bowser vraiment plus réussi que dans les autres. C'est vraiment le gros coup de cœur, on va dire.
Mais ça reste quand même de l'ajustement, on va dire. C'est pas la révolution.
Voilà, les coups sont, enfin sinon ces coups spéciaux sont les mêmes.
Alors, sauf peut-être, alors tu vas me dire si je dis une connerie. J'ai l'impression que alors je sais pas comment on dit, si c'est Ike ou Aiki.
Ike.
On tend à dire Aiki, mais
on dit Hike.
On dit Hike. Alors j'ai l'impression que Hike est juste ultra beaucoup plus surbourrin que dans tous les autres réunis. C'est une putain de brutasse, quoi.
Pour moi, il est pareil qu'avant.
Bah, je sais pas, moi j'ai pas l'impression. C'est beaucoup plus brutal, quoi.
J'ai pas beaucoup joué à Brawl, donc je peux pas te dire. Mais...
Petite parenthèse, comme j'ai Brawl depuis 5 ans dans un carton et que la version 3DS vient de sortir, je me suis mis à Brawl il y a quelques jours. Et je trouve que Hike est effectivement déjà très bourrin dans Brawl.
Bon, il est assez lent, quoi, mais bon, je sais pas trop.
Il est assez lent, mais il fait quand même bien mal au derche.
Il fait quand même bien. Bah, son smash dégage pas mal. Mais ouais. Sinon, les personnages qui ont été bien modifiés, il y avait Samus sans armure.
Ah oui, effectivement, alors Samus sans armure, très agréable à utiliser par rapport à la version de Brawl qui est vraiment pénible.
Et surtout qu'il y a des super skins quasiment enfin, il y a plus grand chose quoi, il y a juste un haut et un bas.
Ah d'accord,
c'est des petits hommages à Zero Mission et à Fusion pour ceux qui ont fini le jeu. Mais...
Ouais, mais c'est vrai que Samus sans armure est vraiment pas mal.
Ah, t'as Chick et Zelda aussi qui ont été changés puisque c'est plus le même perso maintenant, c'est deux personnages différents.
Tout à fait.
Chick ayant reçu deux nouveaux coups spéciaux qui pour le coup sont plutôt intéressants. Un, c'est une espèce de bombe qu'elle lance qui va attirer les ennemis avant d'exploser. Et l'autre, c'est elle fait un saut périlleux arrière pour toucher les gens. Enfin, elle saute par-dessus pour les taper par derrière.
Mmh. Je prononce cette check.
Ouais. Ouais,
moi, j'aime bien dire check en bois.
Est-ce que c'est un petit check?
Anecdote développement, est-ce que vous savez pourquoi est-ce que les deux personnages ont été séparés, Zelda et Check?
Faire plus de perso.
Non.
Faire plus de pognon. Faire deux amiibo différents.
Non plus peut-être. Non, officiellement, c'est parce que la 3DS elle est déjà à donf niveau CPU et elle peut pas gérer un cinquième personnage dans le combat puisque ça fait.
C'est pour ça qu'il y a pas les Ice Climbers.
C'est pour ça qu'ils ont été dupliqués. Peut-être. Peut-être.
C'est peut-être pour ça.
Bah, on remarque après, elle gère bien aussi Harmony et Luma qui sont. Personnage un peu différent.
Ah. Alors d'ailleurs, à titre personnel, ça, Harmony, j'arrive pas à la jouer. Hein.
Elle est pas évidente. Hein,
pas pour toi, je trouve que c'est vraiment injouable.
Je m'en étais bien sorti pendant le test à l'E3, mais là j'ai eu plus de mal sur 3DS et je n'ai pas trop rejoué du coup.
Je sais pas si tu as eu l'occasion de jouer aussi Palutena.
J'ai pas aimé. Vraiment pas.
Alors, moi j'ai adoré Palutena. Vraiment, un de mes nouveaux personnages préférés, c'est Palutena. Je trouve que. Alors, effectivement, elle est relativement lente, mais j'aime bien l'ensemble de ses attaques. Et je trouve qu'elle dégage pas mal. Alors pareil, ça fait partie des persos, on va dire, très forts mais très lents. Mais ça correspond bien à mon style de jeu, en fait. Donc ça passe bien. Et je trouve que Palutena, moi je m'en suis plutôt pas mal sorti.
Moi je l'ai testé, j'ai pas vraiment aimé. Moi, je trouve pas ses coups spéciaux fantastiques, en fait, c'est ça le problème. C'est qu'ils lui ont mis un contre, et un reflet, et j'aurais bien aimé avoir un petit truc offensif à la place du reflet, par exemple.
Ouais, c'est vrai que ça manque un tout petit peu, mais elle est quand même assez puissante au global. Et alors, je maintiens que Pete, pareil, dans Brawl, il était quand même assez costaud déjà. Enfin, c'était un personnage vraiment sympa. Et là, j'ai l'impression aussi qu'il est un petit peu plus costaud. Je sais pas pourquoi. Peut-être parce que j'ai l'habitude, mais.
Son avant et B fait quand même bien mal.
Son avant B fait très mal. Fait très 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 mal. Et son ult, son ultime là, son smash.
Ah, il couvre toute la zone. Hein.
C'est quand même assez bourrin. Donc, dans les personnages que j'avais pas pu essayer, effectivement, dans les démos 3 que j'ai pu essayer là, voilà. Palutena et Pete. Je trouve que vous avez vraiment vraiment du gros potentiel.
Et après, dans les nouveaux persos, il y a le Darren, l'avatar de Fire Emblem Awakening.
Oui.
Qui est probablement, parce que globalement, le premier que je suis allé tester, parce que j'attendais beaucoup de ce perso.
Ouh.
Ah, attends, magicien, moi ça, j'attendais que ça depuis un moment. Et une très bonne surprise. J'ai beaucoup aimé un personnage qui est vraiment basé sur. Je vais peut-être utiliser un terme un peu de jeu de baston, mais de zoning, globalement, ses coups spéciaux, c'est vraiment contrôler mettre des obstacles à l'adversaire, l'empêcher d'avancer. Et,
c'est du contrôle de zone, hein, c'est zone, vraiment ça.
Il y a la PS4 de mon frère qui pète un câble, mais bon, bref, de toute façon.
C'est pas ce qu'il y a de PS4.
Tu peux la vendre sur le bon coin, ce sera la 143ème.
C'est pas la mienne, je suis le sang.
C'est pas grave.
Et qui est assez surprenant parce qu'il y a des smash extrêmement puissants, mais qui a la particularité pour cette attaque spéciale et ses smash d'avoir une durée d'utilisation limitée. Puisqu'ils ont réutilisé le système d'objets qui cassent de Fire Emblem pour ces objets-là. Donc c'est des bons coups, ils sont souvent assez puissants, mais qu'il faut utiliser avec parcimonie parce qu'au bout d'un moment, tu les as plus.
Ouais, c'est vrai que c'était un des personnages un peu intéressant. Vraiment pas évident à jouer, mais je me dis que les gens qui arriveraient à le maîtriser pourraient vraiment faire des choses intéressantes.
Bah, quand tu le compares aux trois autres personnages de Fire Emblem qui sont dans le jeu et qui sont vraiment là pour le coup des épéistes, des mecs
avec des trucs un peu bourrins quoi. Voilà.
Je trouve le personnage déjà plutôt original par rapport à aux autres personnages de sa série et vraiment bien pensé quoi. Enfin, moi ça reste un des bons exemples des nouveaux personnages de jeu qui sont plutôt bien pensés.
Alors, qu'est-ce que tu penses de Shulk? Le personnage de Xenoblade.
Je pense que c'est un des nouveaux personnages avec un menu le plus dur à maîtriser à l'heure actuelle. Enfin, il a sa mécanisme des arts de Monado. Donc pour ceux qui n'ont pas joué au jeu, globalement, dans le jeu, avec l'épée qu'il a, la Monado, Shulk pouvait mettre des bonus à ses coéquipiers. Et ils ont essayé de reproduire ça dans le jeu. Il en a 5 différents qui ont tous un avantage et un inconvénient. Sachant que c'est augmenter la capacité à sauter, augmenter la vitesse, augmenter la défense, et après je crois que c'est les coups et la puissance des smash, globalement, dans cet ordre-là.
Il me semble que c'est ça, ouais.
Donc t'en as 5, faut les choisir avec le bouton B. Donc je crois que le premier c'est celui de vitesse, et pour avoir les autres, il faudra appuyer sur B à chaque fois. Et donc en fait, vraiment le but du personnage c'est de gérer ça, et c'est pas la partie la plus évidente. Après le reste, je crois que c'est un des personnages avec une des meilleures portées.
En fait, à chaque fois que tu appuies sur B, ça fait une rotation parmi les 5.
C'est ça,
donc faut savoir compter en plus.
Sachant que quand tu mets une direction. Bah non, en fait, ils sont affichés à l'écran. T'as un gros symbole coloré, et comme ça, enfin, c'est marqué en kanji.
T'as quand même un signe visuel. Voilà.
Tu sais lequel c'est parce qu'il y a la couleur et il y a le kanji qui s'affiche à l'écran. C'est facile à comprendre, c'est juste faut réussir à bien les placer au bon moment. Par exemple, pour réussir à mettre le saut quand tu essaies de revenir, ça peut être utile pour avoir un deuxième saut qui t'amène très haut et revenir plus facilement.
Voilà, mais c'est,
mais après,
c'est...
très bonne.
Je trouve que c'est vraiment pas évident à gérer.
Il est pas évident à jouer. Mais après, t'as quand même un personnage qui a une très bonne portée parce que la Monado, elle a un sabre laser intégré.
C'est un truc un peu bourrin.
Et il a un contre comme beaucoup trop de persos dans le jeu d'ailleurs.
Tu t'exagères. Je tiens à préciser pour les personnages, parce que je crois qu'on a à peu près fait le tour, en tout cas des trucs un peu intéressants.
On n'a pas parlé de Pac-Man, que j'attendais absolument pas, et en fait j'ai bien aimé.
Alors j'ai eu beaucoup de mal avec Megaman lors de la démo, je continue à avoir beaucoup de mal avec Megaman, donc voilà.
Ah, je l'ai bien aimé pendant la démo Megaman.
Par principe, ouais, le seul personnage que j'ai pas essayé, c'est Sonic.
Ah non, mais. Principe. D'ailleurs, Sonic maintenant parle en français, hein. Ça m'a mais ça valait le coup d'entendre.
Alors,
ça.
Déjà, quand il ouvre sa gueule en anglais, j'ai envie de le baffer. Là, maintenant, c'est mort.
En français, il est juste insupportable. Est-ce qu'on parle des persos cachés ou pas?
Non, on a déjà parlé un petit peu.
Il
y en a pas beaucoup. S'il y en a un d'intéressant, vas-y, mais sinon.
Y en a deux qui sont intéressants.
Vas-y, voilà. On peut finir sur les personnages.
Qui sont Bowser Jr. et le duo Duck Hunt, donc le chien et le canard de Duck Hunt. Qui sont les deux nouveaux persos cachés, le reste étant des anciens ou des clones comme Pete Maléfique, dont je n'ai absolument rien à faire. Et alors, Bowser Jr. A la particularité vraiment très sympa. En fait, ses couleurs alternatives, ce n'est pas des couleurs, c'est les 7 Koopalings. Donc, Iggy, Morton, Roy. Donc, Roy est dans le jeu.
Yeah.
Mais c'est juste pas le même.
Donc, t'as un tout petit peu l'impression de jouer à Mario Kart 8.
Ah, mais franchement.
Morton, tout le monde en Morton.
Quand j'ai vu qu'il avait les autres, je me suis dit quand même, ils ont fait l'effort de tous les modéliser, c'est plutôt cool. C'est un personnage qui est assez proche de Wario dans l'esprit. Vu que c'est.
Donc, il flatule.
Il flatule pas.
Je l'ai pas encore débloqué celui-là, c'est pour ça que je.
Mais c'est vraiment un personnage qui est découvrant, pas assez inhabituel, qui est vraiment presque plus là pour se moquer de toi en fait. Il a des espèces de petits méca boozers de Super Mario World qui peut poser au sol et qui vont exploser sur la gueule de ses adversaires. Il a un truc un peu similaire à la moto de Wario.
Oui, d'accord, c'est le personnage un petit peu troll.
C'est ça, et il est pas évident en jeu, mais je le trouve plutôt réussi. Ne serait-ce que déjà, les animations de ses attaques sont absolument fantastiques. C'est vraiment le truc qui m'a le plus marqué. Même si voilà, je trouvais pas ça fou de le voir arriver, quand je l'ai vu en jeu, j'étais beaucoup plus content de le voir. C'est un vrai bon personnage original. Et le second perso, donc le duo de Kunt, le chien et le canard, qui est, je pense, la plus grosse surprise du jeu, parce que absolument personne ne s'attendait à ce qu'on les mette dedans.
Putain, ça c'est clair.
Complètement.
C'était quand même un peu craqué, quoi.
Qui est le truc le plus improbable du jeu. Et bon, pareil, je sais pas non plus trop jouer avec. Mais c'est un personnage qui est. Bon, qui est l'hommage 8-bit de cet épisode-là, comme l'était Game & Watch ou Rob dans les ceux d'avant. C'est-à-dire que ses coups spéciaux, c'est par exemple invoquer les... Je crois que c'est des espèces de bandits de western, alors je ne sais pas de quel jeu ça vient.
C'est
Gunman Clive.
Ça doit être ça.
C'est ouais. Ça, oui. Tout à fait. Belle mémoire, Méduse, au passage.
Ils peuvent apparaître pour tirer sur les choses. Il a... Son coup est neutre, c'est une canette. Alors c'est un jeu au NES Zapper, je crois, où il fallait tirer sur une canette pour la
tout
faire.
Tout à fait, c'est une compilation de jeux, une compilation de jeux au Zapper. J'ai plus le nom en tête, mais c'est un truc assez que Hogan's Alley.
Voilà. Et il a ce coup où tu peux faire rebondir la canette qui va l'exploser sur quelqu'un. Pareil. Il y a, je crois, qu'il y a une espèce de frisbee à lancer. Enfin, ouais, c'est un pigeon d'argile. C'est plus ça, comment ça s'appelle. Et voilà, t'as le chien avec le canard au-dessus, qui est assez improbable et qui, pareil, ont des bonnes idées d'animation et de coups. Moi, je pense que c'est ma plus grosse surprise au niveau des personnages, je m'y attendais pas du tout et je me suis plutôt bien amusé à les voir arriver en tout cas. Évidemment, dans la moquerie du chien, on le voit qui se moque comme dans le jeu.
Forcément. C'est assez sympa. Pour conclure, alors, sauf si Médus, c'était une question particulière sur les personnages pour finir sur le sujet.
Pas sur les personnages, non.
On pourra aborder la customisation rapidement du jeu. Ou pas?
Pardon, tu veux?
La customisation rapide des personnages. Je te fais vite fait.
Allez, vas-y.
Ouais, dans cet épisode, donc t'as la particularité de pouvoir customiser tous les personnages, c'est-à-dire qu'ils vont avoir
quelques
spéciaux de base. J'allais en revenir sur les mythes. C'est surtout à cause d'eux, en fait. Donc ils ont tous leurs 4 coups de personnage, 4 coups spéciaux de base, et ils ont 2 variantes pour chacun qu'il faut débloquer dans le jeu. Et donc c'est avec ça, tu peux créer tes personnages customisés, où tu peux aussi renforcer l'attaque, la défense ou la vitesse avec des badges à débloquer. Et tu peux utiliser ça dans absolument tous les modes de jeu, même en solo, je crois, sauf le All-Star où tu peux pas. T'es obligé de jouer avec le personnage normal. Et tu peux le faire en ligne qu'avec les amis. Et la raison principale pour laquelle c'est là, c'est parce qu'il y a les Mii, et les Mii, eux, c'est vraiment le personnage customisable. C'est que tu vas avoir ton Mii, tu vas pouvoir lui mettre sa tenue, son couvre-chef. Et là, par contre, tous les coups spéciaux, enfin, t'as 12 coups spéciaux à choisir pour les Mii, 3 pour chaque direction. Et là, tu peux vraiment te créer tes petits Mii personnalisés. Je ne les ai pas trouvés super puissants par rapport aux autres personnages, et peut-être un peu moins amusants à jouer. Si tu veux te faire des gros délires de duel entre Mr. T et Jésus, ben tu peux, quoi. C'est plutôt cool.
C'est quand même le plus important. Voilà, Médus, t'avais un dernier truc à...
C'était pas du tout par rapport au personnage, donc on peut...
Voilà, on va conclure assez rapidement sur le ressenti général du jeu. Moi, je suis plutôt... Alors, j'ai pu faire la comparaison entre la version 3DS et la version 3DS XL, puisque j'ai les deux. voilà. Non mais vous moquez pas comme ça, c'est pas gentil. Je confirme mon impression que j'avais eu à l'E3, c'est-à-dire que sur 3DS c'est vraiment illisible. Par contre, j'ai été agréablement surpris, c'est-à-dire que sur 3DS XL j'avais trouvé ça pas très lisible lors de la démo, et après avoir fait 2-3 parties, il y a quelques arènes qui sont, notamment les arènes qui sont très sombres, qui sont vraiment pas lisibles du tout, mais dans l'ensemble ça passe plutôt pas mal. Voilà.
Alors moi sur 3DS normal, je m'y suis un peu habitué, et c'est vrai que dès que ça commence à dézoomer, et surtout quand ça zoome rapidement, je suis complètement perdu. Enfin, ça m'arrive 2-3 fois de perdre mon personnage et de le voir tomber, et c'est merde.
Alors je sais pas si t'as vu, mais si tu touches une des icônes qui est sur l'écran tactile, ça te permet de focus, en fait, de mettre un espèce de carré rouge très voyant sur un personnage particulier.
J'avais pas fait attention.
C'est une bonne astuce.
Ils en ont parlé en plus.
C'est une excellente astuce. Donc si tu regardes sur l'écran du bas, moi c'est ce que je trouve le plus gênant aujourd'hui, c'est la lisibilité par exemple des pourcentages des personnages. C'est comme c'est sur l'écran du bas et que t'es quand même obligé de rester un peu concentré sur l'écran du haut. Ouais. C'est pas évident d'aller voir qui c'est qui est un peu dans la merde. Donc le truc intéressant là-dedans, c'est dès que t'es dans un endroit un petit peu calme, tu jettes un petit coup d'œil en bas, tu vois qu'il y a un mec à 120, tu cliques dessus, pouf, ça l'éclaire, et là tu peux aller te dire bon, je vais aller lui péter la tronche.
C'est
vraiment très très sympa comme fonctionnalité, donc je tenais à le souligner.
Est-ce que tu penses qu'il y aura la même chose sur Wii U, vu qu'on aura aussi le tactile dans les mains?
Alors, c'est un peu plus lisible sur Wii U. Hein.
Voilà, j'espère qu'il y aura les pourcentages affichés à l'écran sur Wii U, parce que sinon galère. Quoi.
C'est
le cas sur la démo 3. Peut-être la possibilité de les déporter sur le
tactile. Oui, ça peut être intéressant, d'autant plus qu'il me semble qu'il y a un personnage où t'as besoin du tactile pour faire je sais plus quoi, mais je...
Ah bon ?
J'ai souvenir d'avoir joué à un truc comme ça.
Ça me paraît très bizarre, parce que si tu joues en multi sur la même console... Si tu joues en multi sur la même console...
Non, ce serait très bizarre.
Alors par contre, est-ce qu'au niveau contrôle... Sachant que tu peux tout customiser, je précise, on peut customiser toutes les touches de contrôle. Est-ce que toi, Antix, au niveau contrôle, tu t'y retrouvais assez rapidement, ou est-ce que la manette GameCube te manque ?
Bah honnêtement, avec les démos, j'ai pris le temps de m'habituer un peu au contrôle. Bon, je les ai modifiés un peu à ma sauce, mais non, dans l'ensemble, Smash Bros, c'est largement jouable sans la manette GameCube. Enfin, c'est pas quelque chose que j'aurais probablement dit il y a 5 ans, mais non, enfin, on pourra jouer sans la manette GameCube et je pense que ce sera très jouable au Wii U Pro Pad ou à la Mablette quand on l'aura sur Wii U. Le petit défaut, par contre, que j'aurais souligné, mais ça, c'est propre à la 3DS et on peut pas y faire grand-chose, c'est le stick. Qui est pour le coup pas assez précis, que ce soit au niveau des directions. Ça m'est déjà arrivé de faire des coups spéciaux vers le côté au lieu de les faire vers le haut pour pouvoir revenir et du coup je mourais. C'était assez frustrant. Et au niveau de la précision, quand tu veux faire les smash, où il y a des fois le smash part tout seul, tu fais un dash au lieu de faire un smash. Bon, c'est des petits trucs aussi. Bon, mon exé est pas non plus fantastique, mais il y a quand même des fois où le stick, j'avais l'impression que c'était plus lui qui me faisait défaut qu'autre chose. À voir quand j'aurai la version Wii U entre les mains, mais j'avoue que
Ouais.
c'est plus, enfin pour l'instant le problème de cette version 3DS c'est plus le stick. Mais de toute façon je comptais pas y jouer en mode PGM. Donc honnêtement, il y a ce petit défaut pour moi qui je trouve gênant, mais qui rend pas la version 3DS injouable. Au contraire, même je trouve que c'est déjà fantastique d'avoir réussi à faire tourner Smash Bros là-dessus. Hein.
Ouais, en ce qui concerne le stick, je sais pas, je suis assez partagé. J'ai beaucoup de gens qui disaient qu'effectivement le stick faisait que de temps en temps on se gourait. Moi, j'ai pas eu fondamentalement l'impression. Alors après, je suis pas un gros PGM de Smash Bros. Je joue vraiment pour le fun. Donc,
Oui, c'est ça, je pense que si tu joues à Smash Bros pour le fun, c'est absolument pas gênant.
voilà. Après, c'est vrai que j'imagine que pour les gens qui effectivement ils jouent un petit peu plus mode compète, ça
De toute façon,
peut être un petit peu gênant.
c'est pas la version complète, hein, la version 3DS.
Non, clairement, c'est la version de
Du coup,
poche.
est-ce que c'est une version que vous avez achetée temporairement en attendant la version Wii U qui arrive déjà un petit mois et demi ou bien, enfin,
Bon,
dans
très
2 mois,
clairement,
pardon.
oui. Enfin, moi, c'est que j'avais envie de tester les personnages et
Ouais,
d'y jouer comme
Antix, clairement,
Sébastien.
c'est le bouche-trou, hein. Enfin, pour Antix, c'est
Mais
clairement
je.
c'est le bouche-trou.
Enfin, c'est pour attendre la version Wii parce que c'est celle qui m'intéresse, mais ça enlève pas le fait que c'est une version qui est très bonne, sur laquelle je m'amuse quand même beaucoup à l'heure actuelle. Non, c'est vraiment une très bonne version
Non,
portable de Smash Bros. Quoi.
voilà, c'est super fun. Je pense
C'est pas
que.
opportuniste, il y a du boulot derrière, d'ailleurs, quand tu vois que le jeu est super
Oui,
fluide
ça
tout le
clairement.
temps, même en 3D,
Je
qu'un
pense que
extra, je pense.
3DS, je pense que 3DS, enfin Kaliken de 3DS in Paris, il va le voir tourner un paquet de temps parce que franchement, rien contre l'ordinateur, tu t'amuses déjà bien. Et je veux dire, contre des vrais joueurs humains, à mon avis, en local, ça va cartonner,
Oui,
quoi.
j'ai trouvé la démo assez cool. D'ailleurs, je viens de la relancer. Il y a possibilité aussi dans la démo de toucher le tactile pour mettre en évidence les joueurs là.
Voilà, donc c'est une très bonne astuce, vous pouvez l'utiliser. Très
Voilà, même
très.
sur la démo pour
Voilà,
regarder.
très bien pour se retrouver quand on est perdu, parce que ça
Voilà,
peut arriver.
effectivement, pour autre
Je
chose, on va passer à
confirme.
maman.
Et surtout, très très bien pour aller se concentrer sur un mec en particulier quand il y a besoin. Enfin, moi, c'est surtout pour ça que je l'utilisais, c'est
Pour tabasser.
quand 4 et que. Ah bah tiens, il y a Sonic, bah, il est à 2%, mais je m'en tape, je vais lui taper dessus. Parce que je l'aime pas.
Ouais,
Voilà,
c'est pas
c'est maintenant,
Sonic. Parce qu'il est
je en
nul.
veux. Parce que c'est de la merde. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi il l'a, ça me gonfle.
Du coup,
Ah ouais,
j'imagine
non,
que vous allez tous les deux choper la version Wii U dès la sortie.
Ah bah moi,
Oh,
c'est sûr.
oui,
Très
ça.
probablement
Avec un
avec
adaptateur
la.
GameCube.
Bah, comme ça,
Non,
je vais
personnellement,
directement à trois
je.
joueurs, moi.
Alors, personnellement, je suis assez d'accord avec Antique, c'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui ont dit ouais, c'est vraiment pas terrible sur la manette 3DS, machin, avec les boutons et tout. Et en fait, moi, je trouve qu'avec la dispo de base, on s'en sort pas si mal que ça, et c'est pas désagréable. Alors, je dis pas, c'est pas aussi confortable qu'une manette GameCube, c'est pas aussi pratique, aussi machin, aussi truc, mais franchement, je trouve qu'on s'y habitue assez vite, et ça m'est très rarement arrivé d'appuyer sur un bouton qu'il fallait pas, ou de me gourer, ou tout ça.
Ouais.
Moi, il
Ça
m'a fallu un petit temps
se fait quand
d'adaptation. Hein.
même.
Il m'a fallu un
Assez
petit temps d'adaptation, mais c'est parce que je joue encore pas mal à Melee, donc
Moi, c'est vrai que
j'ai
c'est
mes
pas
petits
forcément le
réflexes.
cas.
Mais non, ça passe très bien.
Pour
Hein,
moi qui
mais
joue jamais à Smash Bros, sur la démo, il m'a quand même fallu un temps d'adaptation parce que le format portable, le stick un peu différent, etc. Du coup, c'est vrai que ça fonctionne pas trop mal. Par contre, je sais pas ce que ça donnera avec le stick non cranté de la Wii U, vu qu'on risque peut-être de faire des sauts un petit peu par mégarde. Déjà là, vu que je viens de
Ah,
prendre Brawl,
on peut
je rentre.
annuler les sauts. Hein.
Tu peux désactiver les
Tu peux
sauts
désactiver le saut avec le
sur le
stick, quoi.
stick.
Ah ouais, d'accord.
Ouais.
Ouais, tu peux.
Alors ça, par contre, ça
Ça,
fait
c'est
partie des
sympa.
trucs que je conseille de faire, ça, désactiver le saut sur le stick, parce que
Moi, je le fais aussi.
ouais, c'est vraiment pas utile, t'as un
Je te
bouton pour
retrouve à
sauter,
faire des
c'est beaucoup
sauts
plus
que
simple.
t'aurais pas dû faire, quoi.
Complètement. Mais
et Pippen pour faire des smash vers le haut, ça évite les conneries.
Je veux dire, autant j'ai de très bons souvenirs sur GameCube, sur Melee avec manette GameCube, autant là, je joue avec le... Enfin, vu que je joue pas sur la Wii, mais enfin, je joue à Brawl sur la Wii U, vu qu'elle est compatible, je joue avec le classique contrôleur branché sur la Wiimote, et c'est vrai que c'est quand même une manette bien pourrie, quoi.
Bah, les sticks sont quand même très mal placés.
Le classique contrôleur, c'est horrible, hein.
C'est pas qu'ils sont mal placés, c'est qu'ils ont juste à chier, quoi. Il y a une espèce de feeling.
Ouais, non, c'est Fisher horrible.
Price avec cette manette-là.
Ouais, non, mais elle est pas
assez lamentable. Et du coup, je pense que manette GameCube risque peut-être de s'imposer.
Bah, pour moi, c'est un avantage, c'est que j'ai encore deux manettes GameCube sous la main, et une fois que j'ai l'adaptateur, ben hop, on peut jouer à 3, quoi.
Ouais, voilà, forcément.
Il y en a qui prennent le GamePad, et puis mes potes ont encore des manettes sous la main, donc c'est facile à ramener.
Ouais.
Effectivement.
Du côté du Street Pass pour la version 3DS, ça raconte quoi?
C'est pas
d'accord.
Fou comme toi, c'est une espèce de petit jeu où c'est du Beyblade en fait. Faut éjecter des espèces de
Beyblade en rentrant. On dit Beyblade.
On parle du Blade. C'est une espèce de terrain du dessus et tu dois éjecter des mecs avec des jetons.
Ça sert juste à rien.
Ça sert à rien, je crois que tu gagnes un peu d'argent et parfois des prix au hasard, mais.
Ouais.
C'est pas extraordinaire.
D'ailleurs, j'en profite pour ajouter un petit truc, c'est que dans le jeu, il y a. Donc en plus, enfin, avec tous les modes solo, t'as un tableau des défis comme dans Brawl avec des choses à débloquer si tu réussis certaines conditions.
The Achievements,
sachant que les derniers, c'est évidemment finir le jeu avec tout le monde. Quand t'as 49 personnages dans le jeu, ça fait long.
Bref, on va se quitter, messieurs, parce qu'il est déjà très très tard. On a fait une émission un peu fleuve, mais c'est vrai qu'il y avait énormément de choses à dire. Enfin, Smash Bros, j'imaginais pas qu'on passe moins de 40 minutes dessus, parce que c'est à peu près ce qu'on a fait quand même.
Et encore là, on a fait court.
Et on a fait court, effectivement, il y a quand même énormément de
contenu. On est dans le vif.
Voilà, je vous remercie tous les deux d'avoir participé. Donc, très très gentil. Surtout Antix qui nous a fait le plaisir de nous apporter son expertise sur Smash Bros, parce qu'il a vraiment bien retourné le jeu, alors que finalement, moi j'ai essayé de jouer tous les personnages et toutes les arènes pour voir un petit peu, mais j'ai pas pu aller beaucoup plus loin. Et puis, ben, je vous dis à dans 2 semaines. Je ne sais pas pour l'instant quel sera le sujet de l'émission.
On espérait qu'il y aura un Nintendo Direct entre temps pour pouvoir en parler.
Ouais, voilà. Non, mais sinon, on a quelques sujets en réserve.
Il y aura probablement.
Ce sera le moment de faire un sujet rétro, un truc comme ça.
Peut-être sujet rétro, peut-être quelque chose comme ça. On a plein de sujets de fond aussi, de choses un petit peu. Voilà. Qui change un petit peu le traitement de l'actualité.
Il va forcément y avoir un Nintendo Direct spécial Wii U fin d'année, Smash Bros. Enfin, tu vois.
Bah, voilà, mais qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de plus à côté. Le problème, c'est ça. C'est que sur Smash Bros, qu'est-ce qu'on va pouvoir dire de plus?
Ouais.
Parce que même pour la version Wii U, il n'y aura peut-être plus grand-chose à dire.
Effectivement, là, maintenant qu'on a la version 3, maintenant qu'on a eu l'apéritif, ça va être compliqué.
Il y aura les DLC de Mario Kart qui seront bientôt aussi.
Ah, ils sortent en novembre.
En novembre.
On en a déjà parlé deux fois.
Ouais,
il y a 2 semaines en plus. Bref, bon, et ben, salut tout le monde.
Et
à dans 2 semaines.
Et ta gueule, Tetris.